La grande majorité d'entre vous le sait, on s'est engagé depuis le début de l'année maintenant à étudier des personnages bibliques. Alors, surtout pas dans le sens, comprenez-le bien, surtout pas dans le sens d'une biographie, puisque objectivement, si on raconte la vie de Salomon, ça n'a pas beaucoup plus d'intérêt que si on raconte celle de Louis XIV. Donc le but n'est pas là, le but n'est pas documentaire, il est pédagogique, au sens où la Bible nous dit, tout ça, ça a été écrit non pas pour vous instruire, mais pour vous enseigner, c'est-à-dire pour que nous en tirions des leçons. Alors, les personnages bibliques que nous abordons, on les aborde encore une fois, non pas pour raconter leur vie, mais pour en tirer des leçons pour nous. Parce que, paradoxalement, mais c'est ça le miracle du message biblique, la vie et le comportement de gens qui sont tellement éloignés de nous, non seulement dans le temps, mais aussi dans la culture, dans la façon d'être, dans ce qu'on appelle maintenant les représentations, eh bien, malgré ça, et c'est toute la richesse du message biblique, malgré ça, on peut tirer des leçons de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont fait, pas fait, bien fait ou mal fait. Moi, j'ai un problème, c'est mon atavisme normand, je suis incapable de choisir. Donc quand on m'a dit, puisqu'on s'est mis d'accord avec les autres orateurs, quand on m'a dit il faut choisir un personnage, impossible, vraiment. Donc je me suis dit, il y a deux solutions, ou bien c'est par ordre d'apparition, comme vous savez, comme dans les génériques des films, ou bien c'est par ordre d'apparition à l'image, et à ce moment-là je vous parle d'Adam, mais je me suis dit là on n'est pas tiré d'affaire, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, ou bien alors on les prend par ordre alphabétique, et c'est ce que j'ai choisi de faire, et donc je vais vous parler d'Aaron. Alors, encore une fois, pas pour vous raconter sa vie, je ne vais pas vous donner le nom de ses parents. Enfin, tout ça évidemment, est dans le texte, mais je ne vais pas vous donner le nom de ses parents. Hein. Je vais juste vous rappeler ce que tout le monde sait, évidemment, c'est que c'est le frère aîné de Moïse, il a 3 ans de plus, et ils ont aussi une sœur qui s'appelle Myriam. Et ce qui est intéressant dans l'exemple d'Aaron, puisqu'encore une fois, ça a pour but l'exemplarité. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un bon exemple et un mauvais exemple. C'est-à-dire, certaines choses dans sa vie sont des exemples positifs pour nous, et certaines choses dans sa vie sont des exemples négatifs. Moi, j'aime bien les personnages qui sont humains, c'est-à-dire qui ne sont pas des super-héros, et du coup, hors de portée, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Parce que, évidemment, ceux qui font tout bien, c'est bien de dire, il faut les imiter, accroche-toi, quoi. Moi, ce que j'aime bien chez quelqu'un comme Aaron, c'est que, à peu près la moitié du temps, il fait des choses plutôt pas mal, et l'autre moitié du temps, il se plante complètement, et ça me parle. Alors, ça me parle, et donc je vais essayer de parler avec vous justement de ces succès et de ces échecs qui nous sont finalement tellement proches. Alors, je commence par les qualités, parce que il faut positiver, et donc je vais relever, alors évidemment je ne fais pas le tour de la question, hein, on pourrait parler d'Aaron encore la fois d'après, la fois suivante, etc. Mais j'ai relevé simplement dans chacun des domaines 3 caractéristiques, c'est-à-dire positives et négatives, dans la vie d'Aaron. La première, elle porte un nom que vous allez deviner quand j'aurai lu le texte de l'Exode au chapitre 4 et au verset 10. Alors, c'est l'entrée en scène d'Aaron. Hein. Donc, vous savez que Dieu s'adresse à Moïse et lui dit « Tu vas aller parler à Pharaon, donc au roi d'Égypte. » Et Moïse a un problème que évidemment tout le monde connaît, c'est qu'il est incapable d'aligner 2 mots. Et donc Moïse dit au Seigneur, « Je t'en prie Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, et ça date pas d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu me parles. » Alors il a une formule assez éloquente, c'est le cas de le dire, « J'ai la bouche lourde et la langue lourde », ce qui veut dire je suis vraiment incapable de parler en public. Le Seigneur lui dit, « Qui t'a donné une bouche ?» Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi le Seigneur ? Donc maintenant, va, je suis avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Ça devrait suffire. Quand Dieu dit ça, en principe, mais Moïse, il a vraiment un problème avec ça. Il dit, « Je t'en prie, Seigneur, envoie-le dire par qui tu voudras. » La colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse et il dit, « Il y a bien ton frère, Aaron, le Lévite. Je sais qu'il a la parole facile, lui. Le voici même qui sort à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira en son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je suis avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous ferez. Lui parlera pour toi au peuple. Il sera ta bouche et tu seras son Dieu. » Alors là, il faut comprendre. Dans quel sens ce mot-là est dit. Enfin, c'est dans le sens de porte-parole. C'est aussi comme ça que on. Enfin, c'est un mot qui est aussi traduit par prophète parfois dans le selon le contexte. Donc là, en l'occurrence, c'est il sera ton Dieu dans le sens il sera ton porte-parole. Quant à ce bâton, prends-le en main. Avec lui, tu feras les signes. Ne perdez pas de vue le bâton parce que ça va être le fil rouge de mon propos. On va le retrouver dans tous les épisodes que je vais évoquer. Mais pour l'instant, ne parlons pas du bâton. Je poursuis la lecture au verset 27. Le Seigneur dit à Aaron, « Va à la rencontre de Moïse au désert. » Il alla, l'aborda à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse mit Aaron au courant de toutes les paroles que le Seigneur l'avait envoyé dire et de tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Donc là, si on est attentif à ce qu'on vient de lire, ben la qualité exemplaire d'Aaron, elle saute aux yeux, c'est l'humilité. Comprenez bien ce qui vient de se passer. C'est même pas... Alors, donc Moïse dit à Dieu, je peux pas aligner deux mots, donc pitié, prends quelqu'un d'autre. Dieu se met en colère en disant, bon, quand même, si je te le demande, c'est parce que je vais aussi te donner les moyens de le faire. Donc Moïse insiste, et donc Dieu, curieusement, cède à Moïse en disant, bon, il y a ton frangin, lui, il sait parler, et donc, moi, je vais te parler, et toi, tu vas expliquer à ton frère ce qu'il doit dire, et ton frère, il va prendre la parole en public. Et ça, c'est pas Dieu qui le dit à Aaron. C'est Moïse. Donc imaginez deux secondes à Aaron qui n'a aucun problème pour parler en public, qui s'entend dire par son petit frère, alors ils ont 80 ans et 83 ans à l'époque, hein, nous dit le texte, donc c'est pas des gamins, mais enfin qui s'entend dire quand même par son petit frère, voilà, alors Dieu veut que nous allions parler au roi, que j'aille parler au roi. Moi, je sais pas parler, toi, tu sais. Donc, Dieu va me dire ce qu'il faut dire. Et toi, à qui je vais répéter la parole de Dieu, tu vas aller la délivrer en public. Je transpose pour que vous sachiez bien dans quel contexte on est. Imaginez que j'aille voir Manu et je lui dis, voilà, Dieu a décidé... Enfin, veut qu'on lui fasse un programme informatique. Ouais, super. Et il m'a choisi pour le faire. Non, sans blague. Et donc, moi, je vais savoir, parce que Dieu va me le dire, ce qu'il veut mettre dans son programme informatique, je vais te le dire, j'y comprends rien, mais ça fait rien, c'est moi qui vais te le dire, et toi, tu vas le faire. Il faut, là, une sacrée dose d'humilité, et c'est de ça qu'on parle, on parle d'humilité. Il faut une sacrée dose d'humilité à Manu, pour pas se tourner vers Dieu en lui disant, on va parler deux minutes de gestion des ressources humaines, et si tu me parlais directement, au moins je comprendrais déjà ce que tu veux, et puis il n'y a pas besoin d'une... Enfin, c'est un parasite, celui que tu as mis au milieu, là. Ça peut être ça, la tentation d'Aaron. Ça peut être de dire à Dieu, écoute, puisque tu veux un porte-parole, et que moi je sais parler, et que des choses... Pourquoi tu ne me parles pas directement? Pas une seconde, Aaron va avoir ce réflexe. Et vous pouvez éplucher de la première à la dernière minute la vie d'Aaron. Il n'y a rien dans son comportement qui va trahir ou traduire une jalousie de ce genre. à Aaron, il prend ce que son petit frère lui dit. C'est, encore une fois, c'est même pas Dieu qui lui dit. Il prend ça avec une totale humilité. Et pourquoi est-ce que c'est exemplaire pour nous? Ben parce que dans l'Église, je peux parfois être tenté, et j'ose dire nous pouvons parfois être tentés, de dire ben, ce travail que il ou elle fait, moi je pense que je serais capable de faire mieux parce que je suis mieux équipé pour le faire, humainement mieux équipé pour le faire. Et pourtant, c'est quelqu'un d'autre que Dieu a choisi, quelqu'un d'autre qui, sur le terrain purement humain et purement technique, m'est largement inférieur. Donc, est-ce que je vais le seconder? Et seconder, ça veut dire passer en second. C'est-à-dire, est-ce que je vais me mettre sous l'autorité de celui ou celle qui est moins compétent que moi pour l'aider parce que Dieu a voulu faire les choses comme ça? Le défi pour Aaron, c'est de dire, tu peux faire 100 fois mieux que lui et pourtant tu vas le seconder. Et ça, c'est une leçon d'humilité énorme. Il y a des choses, encore une fois, dont on peut être tenté de se dire parfois, je ferai mieux que lui ou je ferai mieux qu'elle. Et pourtant, Dieu a fait en sorte que les choses se déroulent ainsi, c'est quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre d'apparemment moins doué que moi pour le faire, qui le fait. Donc, est-ce que je vais le regarder se planter? Parce que c'est une attitude aussi. En disant, bah ouais, voilà, Seigneur, t'as fait un mauvais choix. Parce que t'as pris une brêle, bah voilà. Ou est-ce que je vais mettre ma compétence, justement, humaine, pour le coup, technique, et l'art de la parole, c'est pour Aaron d'abord une compétence humaine et technique, il sait faire ce que son frère ne peut pas faire. Est-ce que je vais humblement me mettre sous son autorité pour l'aider, tout simplement, pour porter ce projet que lui ne peut pas porter tout seul? Ça, c'est une leçon. Et c'est une leçon positive. Et moi, j'admire Aaron pour ça, parce que pas un mot de sa part à Dieu pour lui dire, écoute, parle-moi directement, on va gagner un intermédiaire inutile. Parce que l'autre qui bégaye, ça n'apporte rien. Alors humainement, c'est vrai. Humainement, c'est vrai. Pourquoi, humainement, pourquoi est-ce que Dieu parle à Moïse pour que Moïse parle à Aaron et que Aaron parle soit à Pharaon, soit à la cour du roi, soit au peuple? On n'en sait rien. Mais justement, c'est ça la souveraineté de Dieu. Il a choisi de faire comme ça. Et donc, Aaron, ça, il ne le met pas en cause une seule seconde. Et quand on se sent, j'allais dire, techniquement fort, la tentation est grande de dire, attends, laisse, je vais le faire parce que... Voilà, non. Dieu met en place des choses selon sa pensée à lui. Et vous connaissez par cœur le texte, je crois que c'est Ésaïe 55. Hein. Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins. Le ciel est très très haut au-dessus de la terre, et de la même manière, mes pensées sont très très haut au-dessus de vos pensées, et mes chemins sont très très haut au-dessus de vos chemins. Et Paul, citant aussi l'Ancien Testament, dira, mais qui a connu la pensée du Seigneur? Et qui a été capable de le conseiller? Il faut avoir cette humilité-là. Dieu fait les choses comme il l'entend, et il voit beaucoup plus loin et beaucoup plus haut que nous. Et ça, c'est une grande qualité d'Aaron. Et l'appel à l'humilité, enfin, tout le monde a présent à l'esprit les paroles de Jésus, puisque qui dit à ses disciples, mais au fait, vous discutiez de quoi en chemin? Et pourquoi est-ce que c'est difficile de répondre? Bah, parce qu'ils étaient en train de se demander lequel est le plus grand. Et il leur dit, bon, je sais pertinemment de quoi vous parliez. Donc la question était superflue, c'était juste pour vous dire que si parmi vous, quelqu'un veut être grand, il faut qu'il soit, et il a un mot fort, l'esclave des autres. Il faut qu'il soit au service des autres. Et surtout pas la ramener avec « moi je sais faire, moi j'ai été formé pour ». Être l'esclave des autres. Alors c'est facile, j'allais dire sur le papier. Est-ce que je suis prêt à seconder mon frère ou ma sœur, seconder dans des domaines où je me sens peut-être humainement, légitimement plus fort qu'elle ou lui. Première qualité. Deuxième qualité, on la trouve toujours dans le livre de l'Exode, au chapitre 17. Chapitre 17, ça découle d'ailleurs de la première. Il a une autre qualité, une deuxième qualité à Aaron. Chapitre 17, verset 8. Alors Amalek vint se battre avec Israël, à Rephidim. Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes et sorte battre contre Amalek. Demain, je serai debout au sommet de la colline, le bâton de Dieu en main. » Toujours le bâton. Comme Moïse le lui avait dit, Josué engagea le combat contre Amalek, tandis que Moïse, Aaron et Hur étaient montés au sommet de la colline. Alors, quand Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Quand il reposait sa main, Amalek était le plus fort. Et les mains de Moïse se faisaient lourdes. Donc ils prirent une pierre, la placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur, un de chaque côté, lui soutenaient les mains. Ainsi ses mains tinrent fermes jusqu'au coucher du soleil et Josué fit céder Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Le Seigneur dit à Moïse, écris cela en mémorial sur le livre et transmets-le aux oreilles de Josué. J'effacerai la mémoire d'Amalek et je l'effacerai dessous le ciel. Ça va de pair avec ce que j'ai dit avant. Josué, c'est celui qui se bat. Aaron, c'est celui qui va soutenir son frère. Je vais vous faire un aveu. Moi, j'avais, et je dois me corriger là-dessus, j'avais un autre modèle qu'Aaron. Et ce modèle, il a un nom, c'est aussi un personnage biblique, donc du coup, ça me dédouanait. C'est Gamaliel. Gamaliel, j'aime bien, d'abord parce que c'est un grand intellectuel, donc admiration. Vous savez que Paul dit, je l'ai eu comme prof. Hein, donc, et quand il dit ça, c'est pas rien. C'est comme quand moi, je dis, j'ai eu comme prof Robert Badinter en droit pénal. Ça vous pose le prof, d'ailleurs, ça vous pose pas l'élève, mais bon... Gamaliel, c'est quelqu'un dont on dit qu'il est écouté, reconnu, et un personnage important du Grand Conseil. Je vais vous lire ce qui concerne Gamaliel, parce que à tort, je l'ai trop souvent pris comme modèle, celui-là. Acte 5, verset 33. Alors, exaspéré par cette déclaration, c'est le grand conseil, hein, ou, enfin les pharisiens, ils envisagèrent de les faire mourir. Les, c'est les disciples, enfin les apôtres. Mais un homme se leva dans le grand conseil, c'était un pharisien du nom de Gamaliel, un docteur de la loi, estimé de tout le peuple. Il ordonna de faire sortir un instant les prévenus, puis il déclara, « Israélites, prenez bien garde à ce que vous allez faire dans le cas de ces gens. » Ces derniers temps, on a vu surgir Teudas, il prétendait être quelqu'un et avait rallié environ 400 hommes. Lui-même a été tué, tous ceux qui l'avaient suivi se sont éparpillés et il n'en est rien resté. On a vu surgir ensuite Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement. Il avait soulevé du monde, à sa suite, lui aussi, il a péri et tous ceux qui l'avaient suivi se sont dispersés. Alors je vous le dis, ne vous occupez donc plus de ces gens et laissez-les s'en aller. Si c'est des hommes... que vient leur résolution ou leur entreprise, elle disparaîtra d'elle-même. Si c'est de Dieu, vous ne pourrez pas la faire disparaître. N'allez donc pas vous trouver en guerre avec Dieu. Donc ça, c'est une attitude de sagesse et de neutralité qui me plaît bien, en disant, on va regarder, hein. On va laisser faire, on va être ni pour ni contre, bien au contraire, selon la formule amusante, s'il se plante, il se plante, et puis si ça réussit, tant mieux pour lui. Mais, enfin, moi, j'oublie trop souvent, quand je prends ce type comme modèle, que lui, il est neutre par rapport à ça. C'est-à-dire que le succès ou l'échec de l'Église, ça lui est égal. Il dit, on verra bien. On verra bien. Et donc, laissons faire. agissons en spectateurs, et puis on verra ça à la sortie. Est-ce que j'ai le droit de faire ça dans l'Église ? Moi, je l'ai trop souvent fait, c'est-à-dire que quand quelqu'un prenait une initiative, avait un projet, je le sentais pas plus que ça, donc je me disais, je vais pas lui mettre des bâtons dans les roues non plus, on n'est pas là pour faire la guerre. Mais je vais regarder, et puis s'il se ramasse, je lui dirai, t'as vu ? Et puis si ça marche, tant mieux pour lui. Sauf que ça s'appelle ne pas choisir son camp. Gamaliel, il choisit pas son camp. Mais Aaron, lui, il sait que, parce que c'est pas du théâtre, si on a lu que quand Moïse a les mains en l'air, ça se passe plutôt bien au niveau de la bataille, conduite par Josué, quand il en a marre, puis essayez de rester une heure avec le bras en l'air. Vous allez voir comme c'est lourd un bras. Et pas au bout d'une heure, au bout de cinq minutes. Donc effectivement, c'est pas impensable ce qui se déroule là. Et donc quand il en a marre et qu'il baisse les bras, la bataille tourne. Et tourne au détriment d'Israël. Et donc ce que Aaron comprend, c'est que le sort de la bataille, il peut pas être neutre par rapport au résultat. Parce que la victoire sera la victoire de tous, y compris la sienne. Et la défaite sera aussi la défaite de tous, y compris la sienne. Donc, il a un rôle à jouer, parce que, alors, effectivement, il aurait, j'allais dire, s'il n'était pas impliqué, il aurait la facilité de dire, et ça a trop souvent été mon confort, y compris dans l'Église, de regarder son frère, quitte à éventuellement faire des commentaires du genre... Moi, je prends le pari qu'il ne tient pas jusqu'à la fin de la journée. Et effectivement, si Aaron avait agi comme ça, à la Gamaliel, en disant, on verra bien, s'il reste les bras en l'air, tant mieux, c'est que Dieu est avec lui, et puis si il baisse les bras avant le coucher du soleil, on prendra la pâtée, il aurait pu dire ça. Et effectivement, Moïse n'aurait pas tenu le coup, et effectivement, Aaron aurait eu le beau rôle en disant, oui, vous l'avez dit, je suis un bon pronostiqueur. Je vous avais dit qu'il tiendrait pas. Il a pas tenu. Oui, sauf que, c'est quoi la conséquence, quoi. Et donc, dans l'Église, la neutralité n'est pas de mise. Donc, mon frère ou ma sœur, c'est générique, dont je pressens que tout seul il va pas y arriver, il faut que je le soutienne. Il faut que je le soutienne parce que, et c'est ça la grande leçon que je tire, dans l'Église. C'est sympa de dire on est une famille, mais si c'est des mots, ça n'a aucun intérêt. Mais quelle que soit l'entreprise qui est la sienne, son succès, c'est mon succès. Son échec, c'est mon échec. Le succès, c'est le succès de tous, et l'échec, c'est l'échec de tous. Donc on a besoin de se soutenir mutuellement. On n'a pas à se poser de questions. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Est-ce que c'est le bon bras? Est-ce qu'il s'y prend bien? Non. Dans la mesure de mes moyens, je vais le soutenir, parce que si je le soutiens et qu'il y arrive, ça sera notre victoire commune, collective. Et ça, Aaron, il l'a bien compris. Et ça, je pense que c'est une leçon. Alors, c'est une leçon pour moi, parce que je ferai l'effort à l'avenir de prendre plutôt Aaron comme modèle que Gamaliel, parce que c'est facile de croiser les bras et de jouer les spectateurs au premier rang. Non. Dans la mesure de mes moyens, je dois l'aider, parce qu'on est ensemble, on est dans le même camp. Ça, c'est la deuxième qualité d'Aaron. La troisième qualité, alors c'est pas une qualité parce qu'il y est pour rien. Il y est pour rien dans ce troisième point positif que je vais dégager. Il y est pour rien parce que c'est Dieu qui fait tout le boulot. Mais c'est important aussi de prendre ça comme modèle. Cette fois, c'est dans les Nombres. Nombres, chapitre 17. Nombres, chapitre 17, verset 16. Alors, retour du bâton, c'est le cas de le dire. Le Seigneur dit à Moïse, parle aux fils d'Israël. Alors, on va commencer, oui, c'est ça, chapitre 16, 26. Donc, le Seigneur dit à Moïse, parle aux fils d'Israël et fais-toi remettre par eux un bâton par tribu, soit 12 bâtons, remis par tous leurs responsables de tribu. Tu écriras le nom de chacun d'eux sur son bâton. Sur le bâton de Lévi, tu écriras le nom d'Aaron, car il y aura un seul bâton par chef de tribu. Tu déposeras les bâtons dans la tente de la rencontre, devant la chartre. Là où je vous rencontre, l'homme dont le bâton bourgeonnera, c'est celui que j'ai choisi. Ainsi, j'éloignerai de moi les protestations que les fils d'Israël profèrent contre vous. Moïse parla aux fils d'Israël, et leurs chefs lui remirent chacun un bâton par chef de tribu, soit 12 bâtons. Le bâton d'Aaron était au milieu des autres. Moïse déposa les bâtons devant le Seigneur, dans la tente de la charte. Le lendemain, Moïse entra dans la tente de la charte et vit que le bâton d'Aaron, que le bâton d'Aaron de la maison de Lévi avait bourgeonné, il avait fait surgir un bourgeon, éclore une fleur et mûrir des amandes. Moïse sortit tous les bâtons de devant le Seigneur pour les montrer à tous les fils d'Israël. Ils les virent et chacun reprit son bâton. Le Seigneur dit à Moïse, « Remets le bâton d'Aaron devant la charte et garde-le comme signe pour les insoumis. Tu éloigneras de moi leurs protestations et ils ne seront pas frappés de mort. » Ainsi fit Moïse, il fit ce que les seigneurs lui avaient ordonné. Et j'ai juste un petit verset au chapitre suivant, le début, le tout début, chapitre 18, verset 1. Le Seigneur dit à Aaron. Là, Aaron n'est pour rien dans ce qui se passe. Encore une fois, c'est Dieu qui fait tout. Mais tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Aaron, fils de Lévi, enfin, descendant de Lévi, donc lévitique, il a un héritage, et cet héritage est symbolisé par un bâton. Il reçoit un héritage, et sur cet héritage, son nom va être inscrit. Dieu dit à Moïse, sur ce bâton-là, tu vas écrire le nom d'Aaron. Et donc, du coup, pour Aaron, ça va devenir plus qu'un héritage. Il va être chef de tribu, et non pas simplement fils de Lévi. Et ce bâton, et il n'y a rien de plus sec qu'un bâton, il n'y a rien de plus mort qu'un bâton, miraculeusement, Dieu va en faire une source de vie. C'est-à-dire bourgeon, amande et fleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça c'est, encore une fois, c'est pas Aaron qui est exemplaire dans ce domaine. C'est qu'est-ce que Dieu fait pour nous? Qu'est-ce que Dieu fait pour nous? Dieu, et là on n'y est encore pour rien, une fois de plus, c'est un cadeau absolu du Seigneur. Ce qui pourrait n'être qu'un héritage, la parole qu'on a entendue, la parole qu'on a reçue, ce bouquin dont les pages les plus récentes ont été écrites il y a plus de 1900 ans. Il n'y a rien de plus mort que ça, en apparence. Si on se l'approprie, c'est-à-dire si on met son nom dessus, sur ce message, sur cette parole, elle devient source de vie. Elle devient source de vie alors que c'est impensable. Et que confronté aux autres bâtons, c'est-à-dire aux autres paroles, aux autres idéologies, aux autres discours, aux autres religions que ce monde porte, la différence va éclater au grand jour parce que tout le reste est mort, tous les autres bâtons sont morts et notre bâton à nous est vivant. Et donc, ce qui n'était qu'un héritage, le bâton, encore une fois, est symbolique. Un héritage, en apparence, humainement, encore une fois, inerte, mort. Ça devient parce que Dieu fait en sorte qu'on se l'approprie. C'est pas Aaron qui met son nom sur le bâton. C'est Dieu qui dit à Moïse, tu écris le nom d'Aaron. C'est Dieu qui dit à Jésus d'écrire mon nom. C'est pas moi qui l'écris. J'en ai pas le pouvoir. Mais à partir du moment où le Saint-Esprit fait ça, le Saint-Esprit fait aussi en sorte que l'héritage, c'est-à-dire la parole, le message que j'ai reçu, devienne vivant. et devienne source de vie et porte du fruit. Et à partir de là, et seulement à partir de là, tous les chapitres ne commencent plus par « Dieu dit à Moïse, tu vas parler à ton frère », mais « Dieu dit à Aaron », c'est-à-dire que Dieu se met à, parce que sa parole est vivante, Dieu se met à parler directement à Aaron, et Aaron a une relation directe et vivante avec Dieu. Nous avons entendu ça, en d'autres termes, il n'y a pas plus d'une demi-heure. Mon frère me répétait, Tahar, Dieu t'aime. Et un jour, Dieu m'a dit directement, je t'aime. Eh bien, c'est ça, une parole qui devient vivante parce qu'on se l'approprie. Parce qu'on écrit son nom dessus. Non, parce que Dieu écrit notre nom dessus. Et de ce point de vue, Aaron est exemplaire, non pas pour ce qu'il a fait, il n'a pas bougé un ongle sur ce coup-là. Mais ça nous donne l'image de ce que Dieu fait pour chacun de nous. Notre bâton n'est pas mort. Notre bâton, au milieu de tous les autres bâtons qui sont inertes, il est porteur de fruits. C'est plus qu'un héritage, parce qu'on se l'est approprié, parce que ce que Dieu nous a donné porte maintenant notre nom. Et donc, c'est exposé en témoignage, comme le bâton d'Aaron, pour faire taire les autres, c'est-à-dire, voilà ce que Dieu a fait pour moi, et ça, c'est de la vie, c'est pas de la littérature, c'est pas du verbiage, c'est pas des mots, c'est la vie que Dieu m'a donnée. Et puis, il faut que j'aille plus vite, mais vous me pardonnerez d'aller plus vite sur les défauts que sur les qualités. Il n'a pas que des qualités, le père Aaron, il a aussi des défauts. Alors, le défaut archi-connu d'Aaron, mais je vais quand même le lire, Exode, chapitre 32, bon ça, évidemment, je vous aurais interrogé, vous m'auriez parlé de ça, donc on va y aller. Chapitre 32 de l'Exode, le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assembla près d'Aaron et lui dit « Debout, fais-nous des dieux qui marchent à notre tête, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur dit « Arrachez les boucles d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils. » Vous voyez, comme quoi la mode change, hein, parce que les hommes avaient des boucles d'oreilles. « De vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Tout le peuple arracha les boucles d'or qu'ils avaient aux oreilles, et on les apporta à Aaron. Ayant pris l'or de leurs mains, il le façonna au burin pour en faire une statue de veau. Bon, ça c'est ironique, hein, c'est une statue de taureau en fait, mais comme l'auteur se moque de cette statue, du coup ça devient un veau. Il dira alors, « Voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Aaron le vit, et il bâtit un autel en face de la statue, puis Aaron proclama ceci, « Demain, fête pour le Seigneur. » Retenez bien ça. Le lendemain, dès leur lever, ils offrirent des holocaustes et amenèrent des sacrifices de paix. Le peuple s'assit pour manger et boire, et il se leva pour se divertir. Le mot « divertir » est soft, hein, parce que c'est « ah là là ». L'hébreu est sans ambiguïté sur ce point, ils se sont éclatés dans tous les sens du terme. Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une des faiblesses d'Aaron, est-ce que sur ce point, il n'y a pas une petite similitude avec celui qui est en train de vous parler? Évidemment, une des faiblesses d'Aaron, c'est d'être d'abord impatient. Bon, il redescend de sa montagne, l'autre, là. Allez, 3 minutes. Hein, tac, 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 tan, tan, trop tard. Voilà, parce que c'est, évidemment, c'est moi qui fixe le temps. Dieu pourrait éventuellement avoir son mot à dire sur le timing, mais non. Bon, moi, je suis capable de dire, c'est maintenant ou jamais, bien sûr. Et puis... Alors, au-delà de l'impatience, parce que l'impatience est un gros défaut, mais c'est très humain, c'est la perméabilité à l'environnement. C'est-à-dire que quand vous avez autour de vous des gens qui vous disent « Allez, on va se trouver d'autres dieux plus palpables, plus consistants, plus voilà, un peu moins vaporeux et virtuels », quand on entend ça à longueur de temps, eh ben, si on n'a pas une colonne vertébrale en airain, ben, on finit par céder. On finit par céder. Et ce que je constate, c'est que nous sommes dans un environnement qui nous agresse de ces deux manières-là. Dans un environnement qui nous impose son rythme, qui n'est pas évidemment le rythme de Dieu, et qui nous impose surtout des choses plus concrètes que ce Dieu qu'on ne voit jamais, qu'on n'entend jamais, qui ne met pas un signe dans le ciel comme un avion qui, ou comme un nuage, et qui dit pas « coucou, je suis là ». Bon, alors, croire, oui, mais il y a un moment où... Et puis alors, pour se construire d'autres dieux, on a l'embarras du choix. Et la société nous offre un choix immense, infini presque. Et puis, nous, la tentation ultime, c'est de contribuer à la fabrication des faux dieux, et puis parce qu'on est chrétien, ben, on va quand même coller l'étiquette d'une autre de Dieu sur la statue. Et Aaron dit, demain, faites pour le Seigneur. Parce que c'est, ça dédouane tellement de se dire, bon d'accord, on a fait une statue, on a ramassé l'or, en fait on s'est fait une idole, mais bon, ça c'est extrêmement dérangeant psychologiquement. Alors que si on dit, mais non, l'idole, ça n'est que l'image visible du Dieu invisible. Donc la fête de l'idole, ça va être la fête du Seigneur. Et quand je dis, ça c'est une leçon pour moi qui est pas forcément toujours fait très attention au fait d'habiller avec, entre guillemets, des sentiments chrétiens ou au pire des sentiments évangéliques, des choses qui ne le sont absolument pas. Des choses qui sont purement de l'idolâtrie. Et de ce point de vue-là, Aaron me donne une leçon. Je suis, comme lui, capable d'habiller avec des beaux sentiments évangéliques ou chrétiens, comme vous voudrez, des choses qui, en réalité, sont du pur paganisme. Parce que, un, je suis impatient, donc si Dieu me répond pas, moi, je vais me fabriquer la réponse, comme ça, ce sera fait, au moins. Et puis, parce que, deux, je suis perméable à mon environnement, et que mon environnement est hostile. Bien sûr. Est-ce qu'on n'a pas ce risque? Voilà. Et donc, Aaron invente ce qu'on appelle aujourd'hui le syncrétisme, c'est-à-dire une pincée de vérité et une petite pincée de vérité, une grosse pincée d'erreur, ou d'idolâtrie, ou de paganisme, et puis roule ma poule, on va y aller comme ça. Et c'est la fête, du coup. Tout le monde est content. Deuxième mauvais exemple. Vous me donnez quelques minutes de plus pour que j'aille jusqu'au troisième, ouais? Ou ça vous saoule là, non? Bon, je continue un peu. Pardon, Dominique. Deuxième mauvais exemple d'Aaron. Il a une grande qualité. Il a la parole facile. La facilité de parler, c'est à double tranchant. Ça peut être aussi la langue bien pendue, comme on dit. Et il ne va pas se rater sur ce coup-là. Vous connaissez l'épisode. Vous ne connaissez pas ma belle-sœur, la femme de mon frangin. C'est une blague. On n'a pas idée. Enfin, j'ai rien contre les Noirs, mais... De là à se marier avec, quand même, quoi. Enfin, je sais pas, mais qu'est-ce qui lui a pris? Il y a cette blanche comme ça, hein. Qu'est-ce qu'elle peut lui faire à bouffer, en plus? Une étrangère comme ça? Bon. Non, mais je veux surtout pas dire du mal, mais... Puis alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont une sœur. Donc, du coup, la sœur réplique. Et elle dit, vous avez vu la couleur de ma belle-sœur? C'est pas une peau, ça, c'est quoi? White is beautiful. Hein? Et Dieu, qui a aussi de l'humour, va lui dire à elle, il paraît que plus c'est blanc, plus c'est beau. Ben, moi, je connais une façon radicale d'avoir la peau bien blanche. Ça s'appelle la lèpre. Non, mais vous croyez, enfin, vous connaissez l'épisode. Donc c'est dans les Nombres. Nombres chapitre 12. Nombres chapitre 12. De Kivrot-Tahawa, le peuple partit pour Haseroth. Ils étaient à Haseroth quand Myriam, donc la sœur, et également Aaron, critiqua Moïse à cause de la femme nubienne qu'il avait épousée, car il avait épousé une nubienne, donc une blague. Ils dirent, est-ce donc à Moïse seul que le Seigneur a parlé? Ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi? Et le Seigneur l'entendit. Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun homme sur terre. Soudain, le Seigneur dit à Moïse, à Aaron et Myriam, donc tous les trois, allez tous les trois à la tente de la rencontre. Ils y allèrent tous les trois. Le Seigneur descendit dans une colonne de nuée et se tient à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, et tous deux s'avancèrent. Il dit, écoutez donc mes paroles, s'il y a parmi vous un prophète, c'est par une vision que moi, le Seigneur, je me fais connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parle. Il n'en va pas de même pour mon serviteur Moïse, lui qui est mon homme de confiance pour toute ma maison. Je parle de vive voix avec lui en me faisant voir et non dans un langage caché. Il voit la forme du Seigneur. Comment donc osez-vous critiquer mon serviteur Moïse? Alors ça, c'est intéressant. On peut être très vite tenté de remarquer chez l'autre, y compris dans l'Église, on peut être tenté de remarquer chez l'autre ce qu'il y a de différent. C'est toujours sur les différences. Là, il a une femme black. Quelle drôle d'idée. Et du coup, alors, ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne répond pas, ne se place pas du tout sur ce terrain-là. Dieu ne se place pas du tout sur ce terrain-là. En disant, mais c'est très bien les mélanges, Dieu aurait pu faire l'éloge de la mixité raciale. Il ne se place pas du tout sur ce terrain-là. Il est bien en amont. Et il dit à Aaron et Myriam, mais attends, Moïse, c'est celui que j'ai choisi, et vous osez le critiquer? Vous osez critiquer celui que moi j'ai choisi? Moi, il me convient, et vous avez la prétention de dire que lui, dans son comportement, vous trouvez des choses à redire. Et ça devrait être ça. J'allais dire la règle dans l'Église, notre règle. C'est que, effectivement, on est tenté de stigmatiser les différences. Bon, Myriam, à mon avis, elle ne recommencera plus, hein, puisque une semaine en dehors du camp, enfin bon, elle a échappé au pire, hein, puisqu'il a fallu la rattraper sur les gencives, sinon elle serait morte. Enfin, elle est morte maintenant, mais... Non, ce que je veux dire, c'est que une parole, surtout quand on a la parole facile, et c'est la caractéristique d'Aaron, c'est vite parti. Hein. C'est vite parti et il faut faire attention à ça. Parce que la réponse de Dieu, ce n'est pas de négocier sur t'as tort ou t'as raison. C'est mais t'es en train de parler négativement de quelqu'un que j'ai choisi. Mais pour qui tu te prends? Bon, par exemple, vous êtes d'accord que Daniel serait infiniment plus présentable s'il était coiffé comme moi. Et si je dis ça à Dieu... Dieu va pas me répondre non mais c'est pas mal, ça lui va bien, queue de cheval, tout ça. Non, il va me dire attends, c'est quelqu'un que j'ai choisi pour l'adopter, c'est-à-dire pour en faire mon enfant. Tiens, j'aurais pu dire la même chose de Luc d'ailleurs, comme ça. Non mais c'est pas pour qu'il y en ait. Bah, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Non mais ils savent l'un et l'autre toute l'affection que j'ai pour eux. Ils savent que bah, je pense pas une seconde. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que si je dis ça, Dieu va pas me répondre sur la longueur des cheveux. Il va me répondre, non mais attends, j'ai choisi, c'est des gens que j'ai choisis pour les adopter, pour en faire mes enfants. Et tu oses dire des choses négatives sur eux, mais t'es qui? Je les protège, mais on l'a dit dimanche dernier, c'est la prunelle de mes yeux. Il y a tellement de boulot pour te conduire, toi Yann, dans le chemin de la perfection que tu n'as absolument pas le temps de regarder à droite et à gauche pour faire des commentaires sur les autres. Mais regarde-toi. Regarde-toi. Et bouge-toi parce que le temps est court pour faire tous les progrès que tu as à faire en une vie aussi brève. Mais surtout, alors je vais vous faire une confidence. Sur mes notes, j'avais écrit « langue de paix », trois petits points. Je ne vais pas prononcer le mot, mais c'est vite parti, ça. Alors, juste, ne tombons pas, enfin, Yann ne tombe pas dans le travers d'Aaron en faisant des commentaires malvenus sur les différences qui, non pas ne te, j'allais dire, qui te séparent des autres, de tes frères et de tes sœurs, non, qui enrichissent notre vie commune. Dieu ne fabrique pas des clones ni des stéréotypes. Il enrichit la communauté, non pas de nos similitudes, mais de nos différences. On n'est pas, j'ai eu mille fois l'occasion de le dire, on ne réussit pas à être un corps malgré nos différences. On réussit à être un corps grâce à nos différences. C'est parce que une oreille et un œil, c'est pas la même chose, que ça parvient à faire un corps. Et c'est ce que Paul explique à longueur de page, en disant, mais si vous étiez tous pareils, ça, un corps avec que des oreilles, c'est pas un corps. Un corps avec que des yeux, c'est pas un corps. Un corps avec que des doigts de pied, c'est même pas un corps aux pieds. Donc, parler facilement, oui, et j'en sais quelque chose, mais par contre, tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler des autres. Hein. Et puis le dernier, et après je m'arrête, je vous promets, le dernier défaut, alors là pour le coup c'est plus qu'un défaut, c'est le défaut par excellence, c'est bien pire que ça, d'Aaron, c'est dans les Nombres au chapitre 20, Nombres au chapitre 20, versets 1 à 13, alors je vais aller vite. Toute la communauté des fils d'Israël arriva au désert de Sin le premier mois et le peuple s'établit à Kadesh. C'est là que mourut Myriam, quand je vous disais qu'elle était morte, hein, et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté qui s'ameuta contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il disait « Ah, si seulement nous avions expiré quand nos frères ont expiré devant le Seigneur. Pourquoi nous avez-vous mené l'assemblée du Seigneur dans ce désert? Pour que nous y mourions, et nous et nos troupeaux? Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte? Et nous avez-vous amené dans ce triste lieu? Ce n'est pas un lieu pour les semailles, ni pour le figuier, la vigne ou le grenadier, il n'y a même pas d'eau à boire. Moïse et Aaron, laissant l'assemblée, vinrent à l'entrée de la tente de la rencontre, ils se jetèrent face contre terre, et la gloire du Seigneur leur apparut. » Vous voyez, là maintenant, entre parenthèses, Aaron, c'est plus le second de Moïse, c'est l'égal de Moïse devant Dieu, à cause de ce que j'ai raconté tout à l'heure. « Le Seigneur dit à Moïse, prends ton bâton, le bâton, et avec ton frère Aaron, rassemble la communauté devant eux. Vous parlerez au rocher et il donnera son eau. Tu feras jaillir pour eux l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et à ses troupeaux. Comme il en avait reçu l'ordre, Moïse prit le bâton qui se trouvait devant le Seigneur. Moïse et Aaron réunirent l'assemblée devant le rocher et leur dirent, écoutez donc, rebelles, pourrons-nous de ce rocher vous faire jaillir de l'eau? Moïse leva la main, de son bâton il frappa le rocher par deux fois. L'eau jaillit en abondance et la communauté eut à boire ainsi que ses troupeaux. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Puisqu'en ne croyant pas en moi, vous n'avez pas manifesté ma sainteté devant les fils d'Israël, à cause de cela, vous ne mènerez pas cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont là les eaux de Meriba, qui veut dire querelle, car les fils d'Israël cherchèrent querelle au Seigneur, et il y manifesta sa sainteté.
Il est curieux ce texte, parce que apparemment tout se passe bien. Apparemment tout se passe bien. Dieu fait un miracle, Moïse et Aaron font ce que Dieu leur demande de faire, c'est-à-dire vous tapez le rocher et il y a de l'eau qui va sortir, et ça se passe effectivement comme ça. Et Dieu, curieusement, presque paradoxalement, porte ce jugement en disant puisque vous ne m'avez pas cru et que vous n'avez pas manifesté ma gloire, et bien vous ne rentrerez pas dans la terre promise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si les apparences sont irréprochable. Le doute, parce que là, il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de Moïse et d'Aaron, et il n'y a que Dieu qui est capable de dire, parce que taper sur un rocher et qu'il en sorte de l'eau, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Il n'y a que Dieu qui est capable de dire, vous avez fait ça, bien sûr, vous avez réussi ce miracle. Ça fait penser à ceux qui disent à Jésus, on a chassé des démons en ton nom, on a guéri des malades en ton nom. Et Jésus dit, mais le problème n'est pas là. Là, c'est pareil. Seigneur, on a tapé sur le rocher, et on a fait sortir de l'eau, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Le problème n'est pas là. Qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Eh bien, moi, dans le cœur, je décèle le doute. Malgré tout ce que vous avez vu, qui doit vous donner confiance en moi, qui aurait dû vous donner confiance en moi pour l'éternité, c'est le cas de le dire, vous êtes encore capable de douter. Vous êtes encore capable de ne pas me faire confiance. Bien sûr, on va taper sur le rocher va faire jaillir de l'eau, mais est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on va y arriver dans cette terre promise? D'abord, est-ce qu'elle existe vraiment? Enfin, est-ce que tout ce que Dieu nous a promis, le lait, le miel, le machin, est-ce qu'on n'en a pas rajouté un peu là? Est-ce qu'on n'en a pas fait des tonnes sur ce coup-là? Et est-ce qu'il y a vraiment une réalité derrière ça, ou est-ce que c'est un mythe? Tout ça en sauvegardant les apparences. Et la tentation, j'allais dire la dernière tentation, bon, ne pensez pas à Scorsese, la dernière tentation qui fait d'Aaron un mauvais exemple, c'est celle-là. Malgré tout ce qu'on a vu, malgré tout ce qu'on a vu de l'œuvre de Dieu, du travail de Dieu au milieu de nous, on se dit, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière tout ça? Est-ce qu'il y a un but à atteindre? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre notre temps, de perdre nos forces? Est-ce que notre énergie serait pas mieux ailleurs? Est-ce qu'on aurait même pas dû rester là où on était et ne pas se mettre en route? Quand Paul dit j'ai fini ma course, j'ai atteint mon but, j'ai gardé la foi, ça veut dire que c'est un défi de garder la foi. C'est pas... Alors bien sûr, la foi donnée au saint une fois pour toutes, oui bien sûr, mais la tentation du doute, c'est pas quelque chose qui est évacué à la conversion ou même ou au baptême ou à ce que vous voulez. Non, c'est quelque chose qui reste. Se demander si, parce que on parle du ciel, de l'éternité, machin, et puis de construire l'Église qui va être emportée, machin, sur la venue de Jésus dans sa gloire, machin. Est-ce qu'on n'est jamais tenté de douter de ça? Et Dieu dit à Moïse et à Aaron, pas seulement à Aaron, mais à Moïse et à Aaron, vous avez douté, vous ne m'avez pas cru, vous n'avez pas gardé la confiance dans toutes ces promesses que je vous ai faites. Eh bien, à cause de ça, vous ne les verrez pas se réaliser. Je ne veux effrayer personne, mais je pense qu'il est bon de savoir que cette tentation-là existe, la tentation du doute, la tentation du retour en arrière, la tentation de dire est-ce que finalement tout ça n'est pas du vent, que Dieu nous garde d'être des Moïse et Aaron dans ce domaine-là, parce que je tiens et nous tenons à entrer ensemble dans la terre promise. Et je ne souhaite pas, et je pense que c'est un sentiment que vous partagez, je ne souhaite pas que, à l'entrée de cette promesse, il y ait les tombes d'un ou plusieurs d'entre nous qui auront regardé en arrière. Alors, je demande à Dieu de me donner les qualités d'Aaron et de me mettre à l'abri de ses défauts. Voilà, j'ai été long, il y aura encore beaucoup à dire, mais je vous remercie de votre patience.